Asseoir. J'espère qu'on est prêt à abandonner nos fausses vertus et venir à la croix comme un simple pécheur. Je vous invite à reprendre le passage qui nous a été lu par le frère tout à l'heure en Matthieu 26. Je ne vais pas relire encore ce passage maintenant, mais notez simplement, peut-être dans votre Bible, vous avez des paragraphes différents, que les versets 1 à 3, ou 1 à 5, pardon, se passent dans un endroit précis, et puis à partir du verset 6, nous sommes transportés, si vous voulez, dans l'histoire, dans un autre endroit. Et ceci jusqu'au verset 13, pour revenir au verset 14, 15 et 16, au premier endroit. Donc, il y a deux endroits et deux histoires qui se déroulent dans ce passage au même temps. Je veux que vous notiez le contraste dans la façon d'aborder la mort imminente de Jésus. On est deux jours avant la mort de Jésus, ici, dans cette histoire. Dans les deux endroits, la mort de Jésus est discutée, et pourtant de manière très, très différente. Et la première chose, presque en guise d'introduction, à noter, il y a deux maisons contrastées. Oui, dans vos Bibles, peut-être, mettre un trait entre ces deux mots. Au verset 3, nous avons ce qui est appelé la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Il faut imaginer dans vos têtes une grande cour, c'est-à-dire qu'il y avait donc la maison qui allait tout autour. Parfois, ce mot est même appelé, est traduit palais. Le palais du grand sacrificateur Caïphe. On a l'impression, juste en lisant cela, que c'est un endroit important. C'est un endroit de la haute société, c'est un endroit où les choses se décident, c'est un endroit où est concentrée l'autorité et la puissance du pays. Regardez l'autre endroit, verset 6. Jésus était à Béthanie, donc même pas à Jérusalem, hein, mais dans une fourbourg pas loin. Et il était dans la maison de Simon le lépreux. Alors, certainement, il est guéri maintenant. Hein, sinon, ils n'auraient pas pu manger chez lui. Mais le maître de cette maison s'appelle Simon et il porte toujours ce surnom, le lépreux. Il le porte sans doute avec honneur, car cela indique ce qu'il était avant que Jésus ne lui ait guéri, hein, et que ne lui ait prononcé ces mots « sois pur », qu'il a purifié de sa maladie. Et vous connaissez un peu cette maladie affreuse qui est la lèpre. Il était atteint, peut-être dans toute sa gravité. Il était incapable de se guérir. Et à cause de ce fait, les lépreux étaient exclus de la société. Pas simplement la haute société, mais de toute société. Ils devaient vivre loin des villes, n'avaient même pas le droit d'entrer en ville, même pas le droit d'approcher des gens. On les craignait parce qu'on ne voulait pas attraper la même maladie. On savait un contact avec un lépreux était censé vous rendre aussi comme lui. Mais quand Jésus le touche, c'est pas Jésus qui est rendu impur, c'est lui qui est rendu pur. Mais il est content de garder ce titre pour rappeler le grand miracle que Jésus a fait dans sa vie. Il y a des chrétiens qui sont en crise depuis 30 ans, 40 ans, mais ils ne se lassent pas d'y penser, de dire aux autres ce qu'ils étaient avant Christ. Et comme c'est Christ qui les a sauvés. Donc c'est certainement une humble, voire même une pauvre demeure. Et le Saint-Esprit qui inspire Matthieu, il veut, je suis certain, il veut qu'on ait ce contraste dans nos esprits. D'un côté, un grand palais luxueux avec certainement beaucoup de serviteurs. On en dit parfois, hein, il avait des servantes. Il y a une même qui va parler plus tard à Pierre. Et puis de l'autre côté, il y a une humble maisonnette. Et celui qui habite est connu par toute la ville comme celui qui a vécu comme lépreux. Et puis dans ces deux demeures, il y a deux groupes de personnes. Et ces deux groupes aussi sont contrastés. Regardez le verset 3. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunir dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Là, nous avons les personnes importantes de la nation. Nous avons pas simplement les sacrificateurs, mais ici sont réunis les principaux sacrificateurs, les chefs des sacrificateurs, ceux qui avaient l'autorité sur les autres, et puis les anciens du peuple. C'est eux qui dirigeaient, ceux qui faisaient partie du Sanhédrin, c'était ce groupe de 70 hommes qui gouvernaient la nation d'Israël, bien sûr toujours sous la domination de Rome, mais ils avaient quand même une certaine autorité, certains pouvoirs, même pour mettre certaines personnes à mort, etc. Et c'est eux qui sont réunis, ça c'est, on peut dire presque l'Élysée, hein, de la ville, ce moment en tout cas. Si quelque chose d'important va se passer, c'est certainement là. Si on va écouter, on veut voir, hein, si on va chercher les reporters, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller là, ils vont se positionner à l'extérieur de cette maison, de ce palais. Mais Jésus n'est pas dans le palais de luxe. Et Jésus se trouve, et quelle grâce, quel baume pour nos cœurs. Ici, qui sont réunis pas à Paris, à Sarcelles, de savoir que Jésus n'est pas à Jérusalem, mais à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Selon le verset 8, ses disciples sont là avec lui. Vous voyez le contraste, nous avons les grands et les puissants de la nation réunis ensemble, et puis nous avons le lépreux, et les disciples d'un certain Jésus. À travers tous les siècles, ça a été comme ça. Les endroits les plus puissants de ce monde, encore aujourd'hui, ont fermé la porte à Jésus. Il se trouve encore de nos jours, dans des petites salles louées, dans des zones industrielles, dans des salons de familles réfugiées, peut-être dans une forêt, loin de la ville, cachée des autres. Mais Jésus est là. Et si c'était à vous de choisir votre groupe, si c'était à vous de choisir votre place, sachant que la nourriture sera bonne, hein, chez Caïphe, rien dire sur Simon le lépreux, on ne sait pas. Quel endroit choisirez-vous? Le Saint-Esprit nous a dit, par l'apôtre Paul, de considérer nous-mêmes ici, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il y a une raison pour cela, une raison divine, c'est que Dieu a choisi certaines personnes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant ceux qui sont. Pourquoi ? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Dieu n'accepte pas qu'on se glorifie devant lui. Et donc même Jésus, qui vient à Jérusalem, c'est sa dernière semaine en vie. Vous lisez le récit, il va entrer à Jérusalem le jour, et il n'a même pas de place à Jérusalem pour passer la nuit. Il doit sortir de la ville la nuit pour se reposer ailleurs. Alors sachez que Jésus n'est pas forcément ce matin dans la plus belle des cathédrales. Mais il est toujours au milieu de son peuple, même s'ils ne sont que deux ou trois réunis en son nom. Donc l'application, on peut tirer déjà une application, c'est que vous devez choisir votre camp. Vous ne pouvez pas rester neutre. Ceci est vraiment le cas même pour vous les enfants, hein, les jeunes qui m'écoutez. Vous ne pouvez pas rester neutre par rapport à Jésus. Et une manière de savoir que vous êtes en Christ et que vous aimez Dieu, c'est d'analyser votre cœur et voir si vous aimez le peuple de Dieu. Est-ce que vous aimez le peuple de Dieu? Ces personnes qui sont différentes de vous, peut-être d'une autre culture, notre couleur de peau, une autre éducation. Mais est-ce qu'ils sont le peuple de Dieu et est-ce que c'est ça qui vous attire envers eux? Alors dans les deux endroits, et dans les deux groupes, la mort de Jésus est évoquée. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, de manière très très différente. Nous avons dans le premier groupe, ils discutent comment ils peuvent mettre à mort le Seigneur Jésus. Et pendant que ces deux groupes discutent, l'un mange et l'autre discute, nous avons deux interruptions. Et ces deux interruptions aussi sont contrastées l'une à l'autre. Et nous avons ce qui est parfois appelé une inclusio. Okay? Une inclusio dans les études bibliques, c'est un procédé littéraire basé sur cette idée de sens concentrique. C'est-à-dire il y a un sens au milieu, il y a quelque chose au début, et il y a quelque chose à la fin qui va relier le milieu. On peut l'imaginer comme un sandwich. Hein? Vous mettez le pain, puis vous mettez le jambon et le beurre, et puis de l'autre côté, vous mettez encore du pain. Ça, c'est une inclusio culinaire, on va dire. Et assez souvent, surtout dans les psaumes, nous voyons ça dans les proverbes aussi, il va dire quelque chose, et puis il va aller à quelque chose d'autre, et puis il va revenir vers la première chose. Dans la poésie, on appelle ça A, B, B, A. Il y a beaucoup de poèmes qui sont construits comme ça. A, puis B, deux fois B, puis on revient vers A. Et nous avons ici dans ce texte cette idée. Il y a A, et puis il y a le B, B, puis on revient à A. Les versets 1 à 5 parlent de ce qui se passe parmi les principaux sacrificateurs. Puis au verset 6, on va ailleurs, on est dans une autre ville même. On est autour de Jésus, qui mange dans la maison de Simon le lépreux. Mais regardez le verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers qui? Les principaux sacrificateurs, hein, vous les trouvez là au verset 3, vous les retrouvez au verset 14. Et où sont-ils? On sait déjà qu'ils sont réunis ensemble, selon verset 3, dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils sont là réunis, ils sont en train de discuter de la mort de Jésus, et il y a parmi eux une intrusion, il y a une interruption. Quelqu'un arrive à la porte et veut leur parler. Et pour ces dirigeants réunis, c'est une interruption surprenante hein, et inattendue. Parce que qui arrive? C'est un des 12 disciples de ce Jésus, dont ils sont en train de parler. C'est un qui le connaît intimement, qui reste avec lui, qui connaît ses va-et-vient, qui peut tout leur dire. C'est un des apôtres, Judas, et il se déplace, Jean dit que c'est la nuit hein, déjà, il se déplace la nuit, depuis la maison du lépreux, jusqu'à la maison du souverain sacrificateur. Et c'est lui-même qui leur fait une proposition. Ils n'ont même pas à chercher, hein. Regardez le verset 5. C'est lui qui leur dit, « Que voulez-vous me donner ?» Et voici la proposition. « Je vous le livrerai. Hein, » ils discutaient le problème de prendre Jésus. Ils ne voulaient pas le faire en public. Ils ne voulaient pas le faire devant le temple. Ils craignaient le peuple. Ils craignaient une révolte, une tumulte du peuple. Ils se disent, « Il faut le prendre ailleurs, quand il est ailleurs. » Lui dit, moi je suis votre homme, moi je peux vous aider à le prendre quand il est à l'écart. Moi je peux vous le livrer, au milieu de la nuit, dans un jardin quand il est tout seul. Mais que voulez-vous me donner pour cela? Voyez verset 4, ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent, verset 5, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Il semble qu'après avoir consultation, ils avaient décidé de ne pas l'arrêter jusqu'après la Pâque juive. Mais c'est cette proposition inattendue de Judas qui change la donne et les pousse à agir immédiatement. Parce que ça dit, là au verset 16, que depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et nous voyons ici encore le contrôle souverain de Dieu sur toute cette histoire pour contrôler même la date précise de la crucifixion. Eux, ils avaient décidé, on va le mettre à mort, mais on va attendre après la Pâque. Mais Jésus devait être immolé lors de la Pâque. Et même les souverains sacrificateurs et les anciens du peuple vont pas pouvoir choisir la date de sa crucifixion. Les choses vont se dérouler d'une telle manière. Judas est là, il va dire, allons-y, on le fait ce soir, ils y vont, ça se passe. Et ça se déroule d'une manière que même eux, ils n'ont pas le choix de la date exacte. C'est Dieu qui décide la date. Vous voyez la souveraineté de Dieu dans cette histoire? C'est une interruption surprise, surprenante. Un apôtre qui vient livrer Jésus. Et puis là, entre cette histoire, là, placé au beau milieu de cette histoire, nous avons un autre événement. Jésus et ses disciples dans la maison de Simon le lépreux. Et là aussi, il y a une interruption surprise. Là aussi, quelqu'un arrive qui n'est pas attendu. Et là aussi, elle fait une offre qui n'est pas demandée. Vous voyez ça au verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, voici la surprise, voici l'interruption. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Notez cette allusion à son coût, à l'argent, il a fallu. Qui est représenté dans ce parfum. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Alors, il y a plusieurs événements très similaires qui sont faciles à confondre. Par exemple, en Luc 7, c'est une femme pécheresse qui vient chez un pharisien, qui s'appelle d'ailleurs aussi Simon, lorsque Jésus est à table avec lui, et qui va oindre ses pieds avec ses larmes. Ça, c'est certainement un autre événement qui se passe à un autre moment. En Jean 8, nous avons aussi l'histoire de Marie, la sœur de Lazare, de Marthe, qui oignit les pieds de Jésus et qui est critiquée par Judas. Là, c'est moins sûr si c'est la même personne ici, parce que cette femme n'est pas
nommée. Mais ce que nous savons, que cette femme arrive et elle sacrifie son argent. Ça lui a coûté un grand prix. Certainement beaucoup plus que 30 pièces d'argent. Il y a un contraste ici, même dans l'argent échangé. Elle arrive et elle vient pour déverser sur Jésus une grande somme d'argent. Et l'autre personne se sert de Jésus pour gagner un peu d'argent. Vous voyez le contraste? Cette femme arrive et elle sacrifie sur Jésus tout son argent. Et l'autre se sert de Jésus pour se faire de l'argent. Ici, la femme est contrastée à l'apôtre. Et c'est quelque chose qui distingue les vrais adorateurs des faux aussi. C'est que les vrais adorateurs sont prêts à sacrifier tout pour Christ. Ils sont prêts à donner tout pour Christ. Ils donnent leur vie. Ils savent même que l'argent qu'ils ont n'est pas réellement à eux, c'est à Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent se servir même de la religion chrétienne, pour s'accaparer du pouvoir, de l'autorité, ou de la richesse. Ce sont des Judas modernes. Et malheureusement, il y en a plein. Alors que voulez-vous de Jésus? Voulez-vous de l'argent? Voulez-vous vous servir de lui pour la santé, l'argent, etc.? Quand vous venez devant Christ, est-ce que vous êtes prêt à tout lui donner? Mais il y a dernièrement deux vraiment préparations à la mort qui sont contrastées. Je crois que c'est ici probablement le cœur des contrastes. Il y a un groupe qui prépare la mort de Jésus et se demande comment ils peuvent provoquer cette mort. Et puis il y a une femme qui veut accompagner Jésus et préparer son corps pour la tombe. Donc, il y a ceux qui aimeraient voir la vie sans Jésus, en fait. Pour eux, la vie, peut-être il y a des personnes comme ça, même ce matin, la vie belle serait une vie sans Christ. Et puis, il y a ceux qui se sacrifient pour Christ. Notez ce que fait la dame, là, au verset 10. C'est Jésus qui parle d'elle. Il dit, en s'étant aperçu, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Bonne action. « Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et voici maintenant la bonne action, verset 12. « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Hein, dans notre traduction, vous avez dit « pour préparer mon corps pour la tombe ». C'est vraiment cela, ce qu'elle fait. Et puis il dit, verset 13, « Je vous le dis, en vérité, partout, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas, déjà un voleur qui vend la vie de Jésus pour 30 pièces d'argent, et elle qui donne tant d'argent pour préparer le corps de Jésus pour la tombe. Vous savez, c'est la seule préparation qu'aura son corps pour la tombe. Parce que les femmes, rappelez des femmes qui ont préparé des épices et qui viennent le premier jour de la semaine pour le mettre sur son corps, en fait, elles ne le feront pas. Parce que Jésus est déjà ressuscité. Donc la seule préparation qu'aura son corps pour les trois jours passés dans la tombe se passe ici. C'est cette femme qui le prépare. Et il semble qu'elle accepte la nécessité de sa mort. Elle accepte, et on ne sait pas comment elle a pu réaliser l'importance, hein, mais si c'est Marie, la sœur de Marthe, nous savons qu'elle est restée attentive devant Jésus, elle écoutait son enseignement, et donc elle a eu la perception spirituelle de mieux comprendre la nécessité de la mort de Jésus-Christ. Mais Jésus le dit, il faut le croire, qu'elle préparait son corps pour la tombe. On n'est pas obligé de penser qu'elle le faisait d'une façon inconsciente. Elle faisait un acte comme ça et sans le savoir. Non, vraisemblablement, elle le faisait d'une manière consciente. Qu'elle préparait son corps pour la tombe. Et ça, c'est quelque chose que même ses disciples ne pouvaient pas accepter. Rappelez, Pierre, il dit, mais loin de toi, Seigneur, la pensée que... Et puis Jésus lui dit, derrière moi, Satan. Et même, ils arrivent, c'est la nuit avant, et leur cœur est troublé. Et ils ne savent pas ce qui va se passer. Et finalement, quand il est arrêté, il fuit dans la panique et dans la crainte. Mais voici une personne qui accepte la nécessité de sa mort. Et je crois que c'est ça qui est en son honneur ici. Jésus dit... Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi aux mémoires de cette femme ce qu'elle a fait. Elle s'est souvenue de sa mort avant même sa mort. Et elle a voulu pas résister à ce qu'elle savait était essentiel, mais elle a voulu de sa manière contribuer. Et même si ça lui coûte tout son argent, toute sa retraite, elle sait qu'il y a un seul moment, une seule occasion de le faire. C'est maintenant ou jamais, je vais tout donner. Même si c'est mal compris, même si c'est critiqué, et vous savez que suivre le Seigneur et donner tout à lui est souvent mal compris, souvent critiqué, elle dit, je vais le faire. Je vais le faire. Et donc vous avez ces deux personnes-là. Vous avez Judas. Et Judas est un exemple du fait qu'on peut, assister aux meilleures prédications. Hein, qui était un meilleur prédicateur que Jésus? On peut voir tant de miracles. On peut même participer au ministère de Jésus. Lui, Judas lui-même a prêché. Il a lui-même fait des miracles. On peut grandir au sein même de l'Église et avoir un cœur qui est toujours resté rebelle. Et là, quand on arrive au dénouement de l'histoire, on arrive vers la fin de l'histoire, la pression augmente. Elle augmente de plus en plus. Et le choix devient... On est forcé à prendre, à faire un choix. Et là, Judas, il craque, il montre qui il est véritablement. Et il vend Jésus pour le prix d'un esclave. Et puis cette femme, elle arrive, peut-être même pas invitée, critiquée, et par un choix personnel. On voit vraiment que c'est un choix personnel, c'est une adoration personnelle qu'elle fait ici. Elle déverse tous ses revenus sur le corps de Jésus pour préparer sa mort. Mes amis, il y aura à la fin des temps, lors de votre mort, que deux groupes de personnes. Judas fait partie d'un groupe aujourd'hui même. Et cette femme fait partie de l'autre groupe. Il n'y a pas de troisième groupe, il n'y a pas de troisième position, on ne peut pas voter blanc, on ne peut pas dire « je ne décide pas ». Non, on est dans un camp ou dans un autre. Ce que Jésus apprécie spécifiquement ici, c'est le fait qu'elle ne résiste pas à sa mort mais l'accepte et veut même l'accompagner. Et la table du Seigneur nous confronte aussi à la mort de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que nous devons le faire en sa mémoire, en mémoire de moi, et spécifiquement sa mort. Donc c'est comme si nous aussi nous sommes amenés par cette table lors de ce même événement. Et il y en a qui se servent même de la table pour leur profit. Ils ont une idée superstitieuse que de prendre la table du Seigneur serait va les aider, etc. Ou ils veulent bien être bien vus des autres. Ou peut-être vous êtes simplement de ceux qui préfèrent les palais de ce monde à Jésus-Christ. Mais là, nous sommes appelés, pas au palais de Caïphe, mais à la maison de Simon le lépreux. Là, il y a la table du Seigneur. Et nous devons considérer sa mort. Je vous partage une anecdote personnelle, mais j'espère que ça nous aidera. C'est que il y a 6 ans, aujourd'hui, jour pour jour, c'était un dimanche, que mon père a prêché à Pessac. Et puis, ils allaient avoir un repas fraternel. Et c'était 12h24 ou 13h24? À 13h24, il était au ciel. D'une manière inattendue. Hein, il a prêché. Il avait fait 3 kilomètres de jogging le jour avant. Il avait prêché de tout son cœur, toute son énergie. Et moins de 2 heures après le culte, il n'était plus là. C'est la première fois aujourd'hui que son anniversaire tombe encore le dimanche. C'était son jour préféré. Et c'est le jour que l'Éternel l'a pris. Et moi, j'ai prêché ici au restaurant. Il y a certains ici qui se souviennent. Et c'est en rentrant à la maison que j'ai appris la nouvelle. Et donc hier soir, par Zoom, on s'est réunis, les 5 enfants, avec ma mère qui est là avec nous. J'ai ma sœur en Afrique, j'ai un frère en Californie, d'autres en Dakota du Nord, d'autres en Minnesota, enfin on est vraiment éparpillés. 9 heures de décalage horaire, c'est un peu compliqué. Et on s'est réunis pour se souvenir, en fait, de la vie de mon papa. Et du témoignage qu'il avait pour nous. Et vraiment, c'était un temps béni pour nous. Mais on s'est pas attardé sur sa mort. On a parlé plus de sa vie. Même si on est conscient que sa mort, Dieu l'a contrôlée, Dieu l'a dirigée, et on est même reconnaissant pour la manière dont Dieu l'a pris. Mais Jésus veut qu'on fasse quelque chose comme ça aussi, qu'on se réunit, qu'on se souvient de lui, mais spécifiquement de sa mort. Parce que c'est vers la mort que Jésus a marché toute sa vie. La mort n'était pas la fin du ministère de Jésus, c'était le point culminant de son ministère. Il est vraiment né pour mourir. On ne peut pas dire ça de mon papa. Jésus est né pour mourir, parce qu'il est né pour être un sacrifice pour nos péchés sur la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne peut pas rester juste et permettre à des pécheurs d'entrer au ciel sans qu'il ait réglé le problème de leur péché. Et Jésus est venu pour régler ce problème. Et le seul sacrifice qu'il a pu donner, c'est lui-même. Et donc, quand Jésus vient à la fin de sa vie, il avance comme souverain sacrificateur. C'est là aussi l'ironie de cette histoire. Il y a le souverain sacrificateur juif, et avec les principaux sacrificateurs réunis dans dans un endroit, mais ils savent pas que le souverain sacrificateur, le prêtre des prêtres, le grand prêtre de notre salut, se trouvait dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il y allait offrir le plus grand sacrifice, le sacrifice. La Bible dit c'est un seul sacrifice pour tous les péchés. Mais qu'en offrant ce sacrifice, il allait souffrir lui-même. Jésus est le sacrificateur et le sacrifice, voyez? Il s'offre lui-même. Et il le fait pour nos péchés. Et c'est ce que Jésus désire de nous. Il veut qu'on accepte que la mort de Jésus était absolument nécessaire pour me sauver. Est-ce que vous pouvez dire ça? La mort de Jésus était absolument essentielle pour me sauver. Mes péchés, on est toujours là en train de s'excuser, de se justifier, c'est pas si grave que ça. Je vais vous dire comment c'est grave. C'est si grave, cette parole-là que vous avez laissée échapper de la bouche est si grave qu'il a fallu la mort du Fils de Dieu sur la croix pour vous sauver. La mort de Jésus est absolument essentielle pour mon péché. Et après, vous devez vous confier à cette mort. Croire ce que Dieu dit, qu'il y a la rémission de nos péchés dans le sang de Jésus-Christ. Que nous sommes justifiés grâce à sa mort. Comme nous avons chanté, que grâce à sa mort, nous sommes rendus immortels. Et c'est ça un vrai croyant. C'est ça un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui vient à Christ, qui veut faire cet échange, où il donne à Christ ses péchés, et il prend de Christ le salut et sa justice. Alors je vous demande, mes amis, est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous êtes certain que vous êtes en Jésus-Christ? C'est l'invitation que Dieu vous donne. Vous pouvez être simple comme cette femme, hein? On ne sait pas qui elle était, mais vous êtes invité de venir à la croix et de trouver le salut. Et puis, si vous êtes en Christ, vous voulez après le suivre par le baptême. Parce que on baptise pas les bébés, mais les nouveau-nés, hein, les nouveaux bébés, on peut dire. Les nouveau-nés, ceux qui sont en Jésus-Christ et qui veulent témoigner par leur baptême qu'ils ont cette nouvelle vie en Jésus-Christ, qu'ils sont nés de nouveau.